compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Grand bal masqué à Deauville pour cette 46e édition du Festival du cinéma américain. Sans les Américains, on n'en est pas à un paradoxe près dans cette époque paradoxale et folle. Même Batman à la Covid, Robert Pattinson testé positif en plein tournage. On aura tout vu en direct depuis l'hôtel Barrière, le Normandie Deauville. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous sur les planches.
Un festival pour de vrai, sur son affiche, un homme et un acteur remarquable, Kirk Douglas, parti en février dernier à 103 ans, un record de longévité et de talent, nous l'évoquerons. Un festival aussi qui en accueille un autre, Cannes. Son délégué général Thierry Frémaux sera avec nous à ses côtés. Michèle Halberstadt, productrice et distributrice notamment de Minari, qui a fait l'ouverture hier soir à Deauville. Enfin, un couple de documentaristes pour évoquer une autre Amérique, celle des dépossédés. The Last Hillbilly de Diane Bousgarou et Thomas Jenkoy, accompagnés de leur productrice Elisabeth Perlier. Mais pour démarrer cette heure, les jurys de cette compétition, 15 films au programme, on va commencer par celui de la révélation avec sa présidente. Bonjour Rebecca Zlotowski, pardon.
Ah, c'est dur pour moi aussi. Bonjour Christine Masson.
Bonjour. Accompagnée d'une actrice déjà réalisatrice. Bonjour Louana Bajrami.
Bonjour.
Et bienvenue à ces deux hommes qui incarnent le jury présidé par Vanessa Paradis. Bonjour Bruno Podalides.
Bonjour, on a que des noms compliqués.
Oui, c'est vrai. Hein. Tous ces étrangers, vraiment. Et bienvenue à vous. Vincent Lacoste, bonjour.
Bonjour.
Sur 15...
enfin, un simple.
Sur 15 films en compétition, 7 sont les premiers films et 8 sont réalisés par des femmes. C'est rare, cette parité dans un festival.
Généralement, on se tourne vers moi pour cette question.
Bah oui.
Et pourquoi on se tournerait pas vers Bruno pour cette question pour la première?
Bah allons-y alors, Bruno Podalides.
Oui, pardon.
Alors, il y a 8 femmes en compétition, ce qui est une, c'est plus que la parité presque, puisque vous avez 15 films.
Ah oui, c'est même du coup un problème.
C'est un peu trop. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous regardez différemment ou c'est un ou une réalisatrice, c'est pareil?
Oui, enfin, je suis désolé, mais je compte pas, j'ai pas ce regard de compter comme ça. Ça me paraît naturel, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre.
Bah, jusqu'à présent, Rebecca Zlotowski, ça a pas été tellement naturel d'avoir des femmes réalisatrices dans les festivals.
Alors, à Deauville, il y en a souvent. Je pense qu'historiquement, il y a souvent eu beaucoup de films réalisés par des femmes proportionnellement par rapport aux États-Unis qui en produit vraiment très, 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 très peu. Oui. 4% de réalisatrices aux États-Unis, c'est difficile de faire une sélection avec un cinéma indépendant américain, donc ça commence là. Et puis, c'est formidable si, on voit bien qu'il y a des moments post un peu désastre où en fait d'un coup toutes les candidatures de femmes sont acceptées.
C'est le monde à l'envers.
Non, mais c'est tant mieux. C'est surtout que ça va dans le bon sens et que depuis longtemps et que la cote ça commence à se voir.
Un petit quiz un peu pervers, mais est-ce que vous pourriez me citer, j'ai la question à tous, le nom de 5 réalisatrices américaines dans un immense pays comme les États-Unis? C'est assez compliqué.
Ouais, c'est
dur. Rouge.
En combien de temps?
Kelly Richards. Oh,
bah, moi, j'allais dire Kelly Richards.
Ouais. Voilà, oui.
Catherine
Wendy.
Bigelow.
Catherine oui, Bigelow. Très bien.
Nancy Meyer.
Oui, moins connue. Sofia Coppola.
Absolument. Sofia
Coppola. Frances Duman.
Ouais.
J'invente. Hein.
J'ai entendu Frances McDormand et je suis bien là.
Et.
Non, mais on n'a pas beaucoup.
Combien ont eu l'Oscar? Une seule. Catherine Bigelow.
Ouais.
C'est quand même fou. Ouais. Je pense qu'on a presque plus de chance en France d'être une femme réalisatrice qu'aux États-Unis.
Bon,
par exemple,
on a
30% là de femmes réalisatrices en France bientôt.
J'ai pas potassé mes chiffres minces, mais c'est
35%.
Non, mais de toute façon, il n'y a pas meilleur endroit pour faire du cinéma qu'en France, hommes-femmes confondus, je trouve. En fait, du cinéma d'auteur. Et puis les femmes, du coup, un peu plus encore, oui.
7 premiers films, ce qui est beaucoup aussi, vous venez de réaliser le vôtre, Louana Bajrami. Est-ce que vous serez amené à les juger différemment? Est-ce qu'on regarde un premier film différemment? Est-ce qu'on est censé le savoir ou on le juge et on le regarde comme un film?
Non, moi je regarde tous les films comme des films, et que ce soit un homme, une femme, un premier film, un second film, un dixième film, je suis assez impartial là-dessus.
On met quoi dans un premier film, vous qui venez de réaliser le vôtre?
Son âme, ses tripes. Non, vraiment. Ouais. Non, mais moi, j'ai tout mis. Donc,
faut en garder un peu pour la suite.
Ah, mais évidemment, bon. Mais c'était un élan de, d'expression, quoi.
Un premier film, c'est important, Bruno Podalydès, parce que le vôtre...
Prêt.
Ouais. Non, mais surtout, c'est important qu'il reçoive un prix. Par exemple, le vôtre avait reçu un grand prix à Clermont et avait eu le César.
Oui.
C'est super important pour un démarrage de carrière, ça.
En fait, déjà, la famille m'a pris au sérieux à ce moment-là.
Ouais.
J'aurais pu faire 5 films sans que je sois considéré. Et là, tout d'un coup, j'étais marié avec le cinéma, quoi. J'avais une bague au doigt, ouais.
Non, je dis ça parce que vous allez être jury, donc il y a quand même une grosse responsabilité à regarder, à juger et à accorder un prix ou non, c'est-à-dire faire 14 malheureux ou peut-être un petit peu moins, mais c'est très important.
Oui, c'est très important, mais j'accorde pas énormément personnellement d'importance au prix. Bonjour le jury qui parle. Je trouve que c'est un jeu... Donc après il y a quand même un trophée à la fin du jeu, mais faut, ça reste un jeu, au sens intellectuel du terme, du plaisir. Je pense que notre jury paraît très sympathique. Quoi. J'ai hâte de discuter des films, enfin quelque chose de qualitatif, quoi, pas juste décerner des étoiles au film. C'est une aventure de cinéphile aussi entre nous, et j'espère que après l'arrivée, que le film du coup sera représentatif de nos discussions.
Aventure de cinéphile, Vincent Lacoste, vous, le cinéma américain, j'ai lu quelque part que vous l'avez découvert un petit peu tôt grâce à votre père, et notamment des films de gangsters, disiez-vous.
Oui, bah après, un peu comme tout le monde, je pense que le cinéma américain, enfin un peu comme tout le monde, non, mais moi j'ai commencé par les films, moi, du Nouvel Hollywood, quoi, donc Scorsese, Coppola, parce que j'étais fasciné évidemment par la violence, comme chaque adolescent.
Ouais.
Et donc par Scarface,
c'est
de Palma et tout
parle,
ça, quoi. Et enfin, tout en étant absolument pas violent, évidemment.
Quoi. Ouais.
Mais donc voilà, non, c'est vrai que c'est un peu le cinéma avec lequel on a tous grandi, donc c'est intéressant de le voir, mais différemment, parce que là, c'est vraiment des films indépendants, donc qui s'apparentent plus justement à cette période plutôt qu'aux immenses blockbusters qu'on voit maintenant. Quoi.
Vous avez l'intention de découvrir une autre Amérique en voyant ces films, presque.
J'en ai bien l'intention.
Oui. Et après, vous avez découvert la nouvelle vague après tous ces grands maîtres américains du cinéma indépendant.
Oui, parce que c'est assez lié. Enfin, ça, après, c'est, je sais pas si c'est parce qu'on est extrêmement français, donc très chauvin, mais c'est vrai que en effet, tous les réalisateurs américains de cette époque sont inspirés extrêmement de la nouvelle vague, et ils s'en cachent pas, quoi. Donc en fait, ces deux cinémas sont liés, et en regardant le cinéma américain de toutes ces années, on va vers la nouvelle vague.
Vous avez un acteur fétiche, il est américain, il s'appelle James Stewart. C'est drôle pour un jeune garçon d'avoir un modèle comme ça. Qu'est-ce qui vous...
Ah bah non, il est génial. James Stewart, c'est un acteur de génie total. Et puis surtout, il est extrêmement... Enfin, c'est la virilité un peu... comment dire... drôle, quoi. Donc en fait, ça va pas avec la virilité. Je sais pas, il a un côté un peu dégingandé qui est extrêmement attachant, et surtout qui est assez rare dans ces années-là où soit il y a les espèces de grand virilios, quoi, soit il y a Cary Grant aussi qui est un peu comme ça, quoi, mais où que c'est des espèces de mecs qui ont toujours l'air rieurs et une manière très très... Moi, je trouve qu'il s'exprime comme mon papy, James Stewart. Je trouve qu'il ressemble à mon papy, donc je suis très attaché.
Louana Bajrami, comme jeune actrice, comment vous regardez le jeu des acteurs américains? Vous savez, on parle d'un jeu physique où beaucoup de choses passent par le corps. Ce sont des acteurs qui vous impressionnent, les Américains?
Mais c'est particulier de considérer le jeu d'un acteur de par sa nationalité, non ?
Oui, mais bon, il y a quand même une école américaine.
Évidemment. Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas.
Quand vous regardez un film, ça vous importe, les acteurs ? Qu'est-ce qui vous importe en premier quand vous regardez un film ? L'histoire ?
L'émotion. Non, l'émotion qu'elle me procure. La réflexion qu'elle m'amène, l'émotion qu'elle me procure et... Et comment ce film reste après?
Ah oui, comment il vit après?
Voilà.
Et en modèle américain, de film américain, qu'est-ce que vous aimez? Vous avez une...
Ah, moi j'ai grandi avec Tarantino.
Oui.
Évidemment. Et non, mais c'est marrant parce que Kosovo, par exemple, c'est un cinéma qui est omniprésent. Et c'est c'est presque la seule référence, en fait.
Donc, Tarantino, le cinéma américain.
Ouais, le cinéma américain. Ouais, ouais. C'est assez marrant. Et donc ouais, franchement, Scorsese, Coppola, moi j'aimais beaucoup Orson Welles aussi. Et voilà.
Et tous ces films passés au Kosovo.
Évidemment. Oui, ouais. Enfin, partout, je veux dire. Ouais, mais il y a quelque chose de très américanophile là-bas. Et donc, forcément, le cinéma en est impacté aussi.
Rebecca Zlotowski, vous allez vous battre pour les films dans un jury? Non, mais c'est important.
Oui.
C'est important.
Ah ouais, moi, j'aime. Ben non, ben on a toujours envie un peu de faire triompher son idée de la vérité, quoi. Mais bon, en même temps, je suis démocrate. Donc ça et surtout je.
On dit ça au début. Oui, on dit ça.
Toujours se méfier des gens.
Vous avez une voix prépondérante ou pas?
Non, enfin peut-être. Je pense que dans les statuts, on pourrait toujours faire des coups d'autorité. On voit bien que ceux qui ont le pouvoir en ce moment dans le monde s'en gênent pas. Mais c'est ce qui me plaît, c'est aussi. Moi, j'adore me contredire. J'adore m'être trompée sur un film. J'adore être partie en toupie, en détestant quelque chose et me laisser convaincre. Parce qu'en fait, bon, on a l'air un peu con 5 minutes, mais ensuite après, c'est une sensation agréable de s'être trompée sur un film, de pas avoir vu ce qu'il fallait voir peut-être, même si. Voilà. Et puis c'est agréable aussi de mettre un coup de projecteur sur un film parce que c'est une certaine responsabilité, ça peut un peu faire destin sur le film.
Ouais. Bruno Podalydès, vous dites parfois que vous faites des films que vous n'iriez pas forcément voir au cinéma.
Ah oui. Ah non, c'est vrai.
Et donc là, vous allez voir des films que vous n'auriez pas forcément réalisés.
J'irai pas voir en salle, ouais. Ça continue.
Mais est-ce qu'on peut être jaloux de ce qu'on voit, ou alors donner envie, vous voyez, quand on voit des films, ça donne des idées, vous
oui.
dites, il y a des films qu'on aurait bien aimé, qu'on voit et qu'on aurait bien aimé réaliser, j'imagine. Non?
Jamais vraiment, non, c'est pas de l'ordre de réaliser, mais, non, moi, il y a des films qui me stimulent, en fait, qui m'ouvrent des portes de liberté, ah bah tiens, l'audace, elle s'engouffre là, et ça m'encourage pour dérailler à mon tour plus tard, ouais.
Et petit, dans votre ciné-club familial, où on vous présentait des films, des petits résumés des films, il y avait beaucoup de films américains dans la famille Podalydès?
Ah oui, oui, j'ai un souvenir enchanté des westerns à 17h le dimanche. Je continue de regarder des westerns à 17h. Il y a cette espèce d'heure bleue incroyable. Le dimanche, oui, oui, oui. C'est une joie absolue de me remettre un... On nous présentait à 17h un dimanche des John Ford, des Howard Hawks, des très grands films qui n'étaient pas annoncés comme des chefs-d'œuvre avec le poids possible du chef-d'œuvre écrasant. C'était de l'évasion. Et avec un public, notre famille régissait, soutenait John Wayne, vas-y, etc. C'était très vivant. Ouais.
Et votre frère s'imaginait dans tous les rôles?
Ah bah nous tous les deux en fait. Après on partait en cavalcade dans l'appartement. Oui. On venait de voir le Pony Express. Je me souviens, on se passait la sacoche en galopant. Nos parents ne comprenaient pas ce qui se passait. On courait en se passant le cartable. Oui, oui.
Et vous présentez demain à votre jury et à l'ensemble du public de Deauville Les Deux Alfred, votre nouveau film.
C'est autre chose.
On a vu qui est merveilleux, qui sort le 13 janvier prochain. On vous remercie parce qu'il paraît que vous devez aller voir votre premier film tous. D'ailleurs, vous avez la même compétition, hein, tous les quatre, enfin, les deux jurys voient les mêmes films et le palmarès sera rendu le 13 septembre prochain. Merci beaucoup. En attendant de retrouver Thierry Frémaux et Michel Halberstadt, nous allons écouter Gregory Porter, Mr. Holland, mais sans eux à la fin.
Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. She's a good girl now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, said Rosie could go home. Anyway, I like your style. Seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record. Check it out. Oh, hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you
treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way. People ought to be able to play. And keep your soul as black as the name when you're walking straight into the light. Oh, now. For me, when you go out in the world, you see some people will fear your face and name. But Mr. Holland, don't play that game. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, always treat me right. Hey, Mr. Holland. Oh, Mr.
On aura tout vu en direct de Deauville, en dehors de cette compétition américaine ici à Deauville. On va retrouver 9 films qui auraient dû figurer dans un festival avec des palmiers dans le sud de la France.
Chut, 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 ne faites pas trop bruit. La Palme d'Or.
Le carnaval, les animaux, aquarium de Saint-Saëns, la musique du Festival de Cannes depuis 90. Je suppose qu'elle vous a beaucoup manqué, cette musique, Thierry Frémaux, cette année.
Oui, et surtout, elle a manqué à plein de gens. Oui. On nous a, on a à peine eu le temps à penser à notre propre tristesse, parce que beaucoup de gens nous faisaient part de la leur, et c'est presque ça qui nous a encore plus émus. C'est-à-dire voir d'abord plein de très beaux papiers de journalistes qui évidemment ne pouvaient pas à ce moment-là écrire sur les films en mai dernier, du coup qui ont écrit sur la place que tenait le Festival de Cannes et les festivals en général d'ailleurs, parce qu'il faut aussi dire ça, il ne s'agit pas de parler que de nous. On a fait à Venise un acte un peu de collectif avec tous les festivals européens pour redire l'importance artistique, patrimoniale et humaine des festivals. Et si les gens étaient tristes, c'est pas, là encore une fois, sur l'image d'un Cannes glamour, le tapis rouge, etc. C'est pour l'importance professionnelle, industrielle que ça a. Donc oui, on a été un peu...
Mais je reprends Bena Poelvoorde qui dit la Palme d'Or des ORT. C'est vrai qu'elle dort une année, parce qu'elle va pas être physiquement reconnaissable. Ça aussi, ça manque. Je veux dire, le label, c'est très très bien, mais une palme...
Oui, alors en plus le mot a fait beaucoup d'effet, le mot label Cannes, mais oui. C'est pas un label, c'est une sélection officielle, c'est-à-dire que
56 films.
Voilà, dans 20 ans, on dira la sélection de l'année 2020 était celle-là, faite dans des conditions particulières parce que beaucoup de grands auteurs ont décidé de retenter leur chance l'année prochaine. Donc il y a des absences qu'on a pu remarquer dans cette sélection qui est juste celle de gens qui ont préféré attendre
c'est
un an.
C'est fou attendre. Non mais c'est quand même assez dingue hein, d'attendre un an, de retenir son film un an. Ça veut dire des sacrifices. Je sais pas ce que ça veut dire
d'abord
quoi
pour les producteurs des enjeux financiers
énormes,
vraiment énormes.
Ouais.
Et puis surtout quand ils ont tous pris la décision. Soit de venir, soit on était en mai dernier, en juin.
Oui.
Là aujourd'hui, d'abord, on est en septembre, donc le mois de mai 21 est moins loin. Et puis, ça représentait à l'époque, en mai dernier, ça représentait une grosse décision que de repousser. Puis maintenant, comme la pandémie évidemment s'est installée, qu'on vit avec, j'en ai eu quelques-uns qui disent on a bien fait d'attendre.
On peut citer Paul Verhoeven, Benedetta, Bruno Dumont.
Je vais juste évoquer les films qui étaient déjà pris,
oui,
qui étaient déjà retenus. C'est en effet Paul Verhoeven, Nanni Moretti,
ouais,
qui lui a longtemps hésité.
Jean Lely.
Non, pas du tout. Et Wes Anderson.
Ouais. Et Carax pas prêt.
Et alors après, voilà, le film de Xavier Jean Lely n'a pas encore été vu. Je sais pas si au moment où on se parle, il est déjà fini. Idem pour le Bruno Dumont. Il y a encore beaucoup de films qu'on doit voir.
Michèle Halberstadt, en tant que productrice et distributrice, vous avez eu avec ARP, vous avez eu 2 Palmes d'Or.
Mmh.
Et c'est énorme dans la vie d'un producteur et d'un distributeur.
C'est gigantesque dans la vie des films, surtout.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Ça a rapporté... Alors,
mais c'est pas seulement ce que ça rapporte, c'est l'aura.
L'impact, voilà,
c'est l'aura. Adieu ma concubine, avant Adieu ma concubine, on avait sorti Épouse et concubine et Kyoyo, une femme chinoise, ça commençait à bouger sur le cinéma chinois. Mais c'est vraiment Adieu ma concubine qui a révolutionné ça. Enfin, en gros, les chiffres, ils sont passés de 200 000 à 800 000. C'était énorme pour le cinéma chinois. D'un seul coup, ce cinéma a été reconnu comme étant sur la carte. Voilà, c'était pas lointain, la Chine, c'était là.
Ça vous a confirmé vos désirs, en fait, que vos désirs étaient, étaient justes.
C'était vraiment magique, surtout pour un film qu'on a découvert en décembre. Vraiment, à l'abri de tout le monde, à l'abri de tous les regards. Personne ne savait rien de ce film. Et puis, on savait qu'il y avait La Leçon de piano, qui était quand même l'évident favori. Quant à Rosetta, évidemment, on se souvient de tous les débats qu'il y a eu autour de Rosetta.
Oui.
Et c'était incroyable. Enfin, jamais les Dardenne ont fait ce genre d'entrée.
Cronenberg, président du jury.
Cronenberg, président du jury, où moi je me disais, oh là là, ça va pas du tout être son genre. Et il a eu cette phrase incroyable quand il est arrivé à la conférence de presse au début. Je sais pas si tu te souviens, Thierry, il a dit, La Palme d'Or, c'est un film à la marche qui ira au centre. Et c'est tellement intelligent. Et c'est vrai que c'est ça, les Palmes d'Or.
Ouais.
C'est qu'il met la marge au centre. Je pense que c'est la plus belle définition qu'on puisse donner de la Palme. D'un seul coup, un truc qui est, regardez, Happy Chapong, Vera Segdakul, qui, est-ce qu'on savait dire son nom avant sa palme.
Et c'est Tim Burton en plus qui lui a, c'est un Américain qui lui remet.
Et je pense que c'est ça, la Palme d'Or, et c'est ça le Festival de Cannes. Et ce que Thierry disait, et que je voudrais renchérir là-dessus, c'est l'importance que ça a pour la profession Cannes. Montrer les films à Cannes. Nous, on a des films qu'on a retenus pour l'année prochaine.
Ouais.
Pas forcément des films de compétition, aussi des films pour éventuellement un certain regard, mais parce que, notamment des premiers films, la caisse de résonance qu'a Cannes, nulle part au monde, vous l'avez. Cet endroit où les cinéphiles, le public, les professionnels, tout le monde découvre en même temps un film et se fait son opinion. Et l'opinion, pardon, mais quand on est seul chez soi devant un écran ou quand on est dans le grand auditorium de lumière, on ne voit pas le même film.
Ouais.
C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, le film n'est pas le même.
Mais c'est aussi une prise de risque de multiplier.
Bien sûr, mais enfin, si vous faites ce métier, c'est que vous aimez le risque. Sinon faut rester chez soi.
C'est un pari. À chaque fois, c'est un pari.
Bien sûr, il y a des cas où on perd. Bien sûr. Nous, on a réussi à faire un cas.
Et puis, quand on parlait de frustration, il y a un certain nombre de films, des 56 films de la sélection officielle de cette année, dont me manque l'idée de l'effet qu'ils auraient fait devant le public. C'est-à-dire que, en général, le 15 avril, on présente la sélection à vous, journalistes, et on se revoit dans un mois, et un mois plus tard, tout le monde a vu les films. Et on a tout l'été, toute l'année pour en parler. Alors que là, le 3 juin, on a annoncé une sélection, mais dont on n'a pas pu valider la pertinence, et encore moins par cette espèce de foule bigarrée étrange qui est celle du Palais des Festivals, où il y a de tout. Il y a la presse, bien sûr, parce que ça compte énormément. C'est la presse qui fait Cannes depuis le début. Moi, je suis toujours un peu soupçonné de mais j'aime bien me disputer avec les journalistes parce oui, parce que comme moi, ils voient les films, donc on peut parler de cinéma. Et puis il y a l'industrie. Et puis tout à coup, il y a en effet un spectateur chinois, un spectateur qui arrive de Buenos Aires. Donc c'est des sensibilités différentes. Et à un moment, Parasite, boum, ça emporte tout sur son passage.
Il y en avait un qui avait l'air très excitant sur le papier. Et c'est, d'ailleurs, c'était deux films d'un même réalisateur, c'était Steve McQueen. Et notamment, un était extrait d'une série. Ça aurait été la première fois que, peut-être que Cannes sélectionne.
Alors c'est une série de longs métrages. En fait, c'est pas une série qui se suit, c'est une série de longs métrages. Nous, encore une fois, on mettra pas de série en compétition parce que la série, d'abord physiquement, 15 épisodes d'une heure, comment vous faites. Et puis c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est très très brillant. Les grands débats ont pas encore eu lieu, ni en production, sur le rapport entre les plateformes et le système traditionnel de production. Ni sur les objets, c'est-à-dire ce qu'est un film, un unitaire, parce que maintenant on parle de ça, un unitaire produit pour une plateforme ou produit pour le cinéma, c'est pas la même chose. En même temps, il y a aujourd'hui, du côté des nouveaux entrants, une sensibilité au scénario, au sujet, à la liberté des artistes, qui aussi vient questionner ce que le cinéma, en particulier le cinéma américain, était devenu.
Alors, le Festival de Cannes ouvre ses portes depuis quelques années au cinéma de genre et au cinéma coréen, ces fameuses séances tardives qui sont super, et notamment ce film qui aurait dû figurer cette année à Cannes, Michel Halberstadt, c'est Peninsula. On va écouter un petit morceau de bande-annonce avant d'en parler.
Peterson, quand il t'entoure un dragon.
You get the truck, come back with the money.
That's $2.5 million per head. If you come back alive.
I'm going to go to the house.
그것 또 나서야 되나.
Et qu'est-ce que vous disiez, Thierry Frémaux?
Là, on entend la musique de la langue coréenne.
Oui.
Il y a que par le cinéma que un Français, pour parler de nous, peut l'entendre comme ça dans l'année, et en particulier au film de Cannes.
Je sais si on l'entend beaucoup depuis quelques années et dans des films importants.
Et Peninsula, d'ailleurs, c'est la suite donc de d'un dernier train pour Busan. En fait, c'est une trilogie.
C'est pas la suite.
C'est une trilogie.
Oui, mais c'est pas vraiment la suite. C'est juste, c'est 4 ans plus tard.
On reprend pas le train.
Donc, mais on reprend pas le train. Exactement. Il y a plus de train. Je peux vous donner un scoop. Il y a plus de train.
Et il s'agit de quoi alors? Il s'agit de survivants à une catastrophe post-apocalyptique.
Il y a des gens qui ont échappé au virus, qui sont réfugiés à Hong Kong.
À quel virus?
Le virus qui a réveillé les zombies.
Ouais.
Donc tous les zombies sont sur la péninsule coréenne. Il y a quelques survivants qui sont à Hong Kong. Et à Hong Kong, il y a un espèce de comment dire, de dealer, trafiquant, qui trouve donc des immigrés ex de la péninsule en disant: vous allez retourner, il y a un gros sac rempli de dollars, il faut que je le récupère, il est dans un camion, c'est simple, vous allez la nuit, parce que la nuit les zombies ils dorment, vous prenez le camion, vous prenez l'argent, vous me le ramenez. Voilà. Et donc ces pauvres survivants retournent sur la péninsule et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas seulement des zombies, il y a aussi des survivants qui sont devenus un peu des tarés. Voilà. Donc ils sont presque pires que les zombies.
Vous avez découvert ce film après Un train pour Busan, j'imagine, qui a fait un record absolu d'entrée en Corée.
Alors déjà, il faut dire l'importance de Cannes. Dernier train pour Busan, on l'a vu annoncé dans la sélection à minuit. Donc moi, comme tous les acheteurs, on a commencé à écrire aux vendeurs en disant: allez, envoyez-le nous, on veut le voir. Alors moi, j'étais là en train de dire: on a sorti tel film coréen, on a sorti tel film asiatique, faut nous le montrer, c'est évident qu'il est pour nous. Et les mecs, ils ont été costauds, ils ont dit rien avant Cannes à minuit. Donc on était tous à égalité à minuit à Cannes et on est tous devenus dingues quand même. Parce que dans cette grande salle, ces zombies qui nous tombent dessus. Moi, c'est la première fois qu'un film de zombies me faisait pleurer quand même. Et pour moi, ça a été vraiment le slogan. Je disais à Laurent, si on l'achète, c'est ça la phrase d'accroche. Un film de zombies m'a fait pleurer.
Donc ce label Cannes, il arrive, Thierry, juste avant le générique du film. On voit le dessin de la Palme d'Or sur le générique.
C'est le carton habituel des films de la sélection officielle. Mais un jour, comme ça nous est arrivé de le faire pour Cannes 1939, ou de montrer des films qui n'avaient pas été montrés en 68 lorsque le festival s'est arrêté, un jour, et peut-être à la fin de l'année, on parlait du palmarès tout à l'heure, je suis convaincu que plein de gens, vous, la presse aussi, chacun va faire son palmarès.
Bien sûr.
D'ailleurs, ça va être un jeu marrant.
Mais oui. Mais vous pouvez même trouver un jury et le faire officiellement. Non mais Thierry, il faudrait que vous fassiez ça.
Ouais.
Ben oui.
C'est pas mal.
Ben oui.
Mais
moi, je pense.
Mais
une fois qu'on aura vu les films qui seront sortis,
ils seront vus où? C'est ça la question.
Mais ils auront tous été vus.
Quand ils seront tous sortis.
Quand ils seront tous sortis.
C'est pas mal.
Mais France Inter pourrait financer un peu.
Ça y est, ça vous prend tout de suite, c'est terrible.
Tout de suite l'argent.
On peut parler d'artiste un peu.
Spike Lee, votre président de 2020, qui sera peut-être celui de 21, a dit: tant qu'un vaccin ou un traitement ne sera pas trouvé, je ne crois pas au retour en salle du public. C'est super pessimiste, ça.
Ben, il l'a dit à un moment où, d'abord, la situation française, ou plutôt la situation américaine, n'est pas la même que la situation française.
Non.
Moi, j'ai coutume de dire, on parle de ça souvent avec Tarantino, sur l'avenir du cinéma. Je dis: toi, tu es trop pessimiste parce que tu es américain, et moi, je suis trop optimiste parce que je suis français.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, on a quand même une tradition, une culture, un système aussi du fonctionnement du cinéma qui est pas le même que les Américains. Et les Américains, ça s'est vraiment très, très, très écroulé. Et là, vous savez que le film de Christopher Nolan, qui a fini par sortir en France et dans pas mal de pays du monde, ce qui était un gros risque pour la Warner, parce qu'il ne sortait pas en premier aux États-Unis.
Ouais.
Car il ne pouvait pas. Et la Warner a fait quand même un effort gigantesque en prenant ce risque-là de ce que le film puisse être vu ailleurs que d'abord aux États-Unis. Mais ça voulait dire, un, qu'il fallait que ce film sorte. Et Christopher Nolan, qui est un grand défenseur des salles de cinéma, a tenu bon pour ne pas que le film soit vendu à une plateforme, enfin à la plateforme Warner. Et puis deuxièmement, de dire tant pis, on y va et on verra bien. Parce qu'aux États-Unis, le système est vraiment bon. Après, Donald Trump a promis, comme l'élection est le 3 novembre, je crois, le vaccin pour le 1er novembre. Tous les espoirs sont permis.
Donc, Cannes va se dispatcher entre Deauville, Angoulême, Toronto, New York, Busan et Lumière à Lyon.
Oui, on va même faire...
Comment vous choisissez pour chaque festival, alors? Comment vous faites?
Non, alors, c'est chaque directeur de festival ou directrice de festival qui décide.
Vous avez rencontré celui de Lyon, d'à peu près.
Non, mais c'est avec Valère Arnaud qui...
Mais, dur, hein.
Non, mais on fera 19 avant-premières à Lyon, des films qui auront d'ailleurs été montrés ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas non plus de la jouer, petit drapeau, on va être les premiers. Il faut que ces films-là circulent. Et nous, on a promis en annonçant la sélection qu'on les accompagnerait. Donc, je vais présenter Peninsula, je vais présenter pas mal de films ici à Deauville, et puis on continuera de le faire en effet à Saint-Sébastien, Saint-Sébastien qui fait aussi un gros hommage au Festival de Cannes, et il faut répéter que c'est pas à Cannes mais au film de Cannes. Nous on est là pour les films.
Thierry, vraiment, c'est quoi un film sans équipe physique?
Eh bien, c'est comme comme un quart de finale de Champions League entre Lyon et Manchester City.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que à l'arrivée, le plaisir est encore plus fort que quand le beau film ou le beau match est là. Et non, en plus, trêve de plaisanterie, que ça soit dans le Tour de France ou pour les matchs de foot, le fait qu'il n'y ait pas de public redonne de la pureté au jeu. C'est-à-dire que c'est comme si les joueurs descendaient de leur immeuble et rejouaient au foot en bas de leur immeuble.
Sauf qu'ils sont en direct. Et
oui, mais nous, on n'a pas les équipes, on est là pour les films. Et y compris, parfois, les équipes viennent infléchir le jugement qu'on peut avoir sur tel ou tel film, en particulier à Cannes. Souvent, la séance de gala n'a pas la même humeur que la séance de presse ou que la séance publique.
Oui.
Donc, là, c'est dommage que les équipes soient pas là. Michel me racontait à quel point Lee Zaik-Cheung, le réalisateur de Minari, était triste de pas être là, quoi.
Oui.
Mais en même temps, les gens ont vu son film, pour ce qu'il est, sans que lui ait eu besoin d'en faire la publicité avant séance ou le service après-vente.
Oui, mais ce qui avait de drôle, c'est que la salle était émue, ils applaudissaient.
Alors, on parle de la projection d'hier soir.
Pardon,
ouais.
Et on se disait, s'il avait été là, si quand les lumières se rallument, il avait été là, ça aurait été magnifique, l'ovation qu'il aurait reçue.
Mais là, tu touches à un truc très important des festivals et de Cannes ou des avant-premières partout, c'est que...
Ce rapport-là.
Oui, les gens ont envie de remercier. On a envie de remercier les écrivains et les chanteurs qui nous donnent ça. Roselyne Bachelot a fait un discours formidable hier. Elle a été très applaudie et on avait envie de remercier pour les mots qu'on a entendus. Donc ça, c'est irremplaçable. Et en effet, enchaîner sur ce que Michel disait, c'est le live, c'est la salle de cinéma qui permet ça.
Je me suis demandé même si vous n'alliez pas leur envoyer ça, ça a été filmé ou pas, parce que ça serait un juste retour des choses pour le réalisateur.
Ça rend pas pareil d'enregistrer le son, mais je lui ai envoyé le film de son film de présentation dans l'écran de la salle.
Oui.
Et ça, il était déjà enchanté, mais c'est vrai que c'est une frustration terrible pour lui comme pour nous de pas sentir cette salle. C'était magnifique de voir une salle de cinéma à ce point, à l'écoute d'un film, riant quand ils en avaient envie, étant émus. Enfin, on sentait la salle vibrer. Et voilà, j'étais triste qu'ils puissent pas le sentir comme
vous. Vous l'avez découvert à un festival, le dernier avant la Covid d'ailleurs, était Sundance aux États-Unis. Vous l'avez découvert avec tout le monde et vous l'avez acheté après la première projection.
Absolument. Et ça a été... Ça coûtait cher. Ça coûtait un peu cher, mais il y a des films qui vous parlent et auxquels vous pouvez pas résister. Ça fait vraiment partie de ces films où vous dites, tant pis, je veux le sortir.
Tant pis, je vais
un peu casser la tirelire.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Concrètement, c'est cet enjeu-là qui est en cause.
Bien sûr, oui.
C'est quoi cher?
C'est toujours par rapport au budget. Vous voyez, il y a un autre film où j'aurais volontiers cassé la tirelire, je ne l'ai pas eu, je m'en remettrai jamais, c'est Boyhood. Voilà, ça c'est Boyhood. Je l'ai vu à Sundance à 20h.
Ouais.
J'en suis sortie à 23h30 et j'y suis retournée à 8h du matin le lendemain parce qu'il me manquait. Ces gens-là me manquaient, ça m'était jamais arrivé.
Et ce genre d'argument que vous lancez aux vendeurs, ils s'en fichent, ils s'en foutent.
Ils s'en foutent, mais si vous saviez, vraiment. Mais même là, l'argent, je me souviens une fois, je voulais acheter le discours d'un roi. J'arrivais pas à l'avoir, j'appelle Harvey Weinstein, le fameux, et je lui dis « Harvey, tu as inventé mon métier ». J'adore ce film, j'ai une passion pour ce film, ça fait 2 mois que je vous harcèle. Pourquoi tu ne me le vends pas ? Et il m'a répondu « Parce qu'il s'agit pas du film ». Et effectivement, il s'agissait pas du film, il avait un litige avec une compagnie, et il a réglé son litige en lui filant le film. Voilà. Donc, entendre Harvey Weinstein qui a inventé ce boulot, vous dire il s'agit pas du film, voilà, il y a des cas où il s'agit pas du film. Vous avez beau arriver avec votre amour et vos dollars, C'est pas le débat.
Ouais, ça c'est l'autre canne, Thierry Frémaux. Toutes les conversations, tous les deals dont on ne parle pas forcément, qui se jouent derrière les films et après les projections.
Oui, c'est pour ça qu'on a fait un marché en ligne fin juin. Là, on pouvait le faire en ligne, alors qu'on a évidemment refusé de faire un festival en ligne. Ça ne veut rien dire. C'est autre chose. Ouais. En tout cas, ça ne peut pas être Cannes. Outre que, on n'a toujours pas compris ceux qui disaient, mais comment ça se fait que vous ne faites pas un festival en ligne? Comment ça aurait pu marcher? Aucun distributeur allait prendre le risque du piratage, etc. Et puis, ça aurait été forcément pour une petite élite de jambon. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite faire. Mais le marché était important parce que, comme les artistes et les professionnels ont été frustrés par le manque, par l'absence de Cannes, les vendeurs, les acheteurs, enfin tout ce qui se joue aussi pendant le festival de Cannes n'étaient pas là, et il fallait, pour ponctuer l'année, là il y aura la FM qui est l'autre grand marché, puis plus tard Berlin, mais il fallait aussi, et c'est pour ça que nous on l'a voulu tenir, parce que on nous a reproché de faire une sélection. Aussi, il y a des gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous appropriez des films que vous ne montrerez pas? Et on a dit, d'abord parce que on nous l'a demandé, et puis parce que c'était, c'est vrai, on a entendu des trucs. Il y a eu une passion française à un moment pour les annulations au tout début de l'épidémie, et nous on disait, comment ça se fait que le festival des Cannes n'est toujours pas annulé? Et je parle souvent à Christian Prudhomme, qui est un ami, le patron du Tour de France, et il avait la même chose sur le Tour de France. C'est-à-dire, et nous, on a quand même les gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous vous obstinez à faire Cannes? À l'époque, on tentait de le repousser pour quand même essayer de jouer. Cannes ne sauvera pas des vies. On a dit, ben non, Cannes ne va pas sauver des vies, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Il s'agissait que les gens comprennent bien que, encore une fois, c'est pas le petit drapeau Festival de Cannes, c'est tout un monde qui se joue et qu'on a tenté de préserver aussi, d'une autre manière.
On vous retrouve au Festival Lumière en octobre, Thierry et Michel Halberstadt, pour le Peninsula sort quand en salle?
Le 21 octobre.
Et Minari?
Quand les Américains sortiront, car dans mon contrat, je dois attendre qu'ils sortent. Oula. Et à cause de la pandémie, ils ne sont pas sortis cet été comme prévu.
On devait parler de Kirk Douglas. On n'a pas trop le temps. Il est sur l'affiche. Il y a beaucoup de films qui sont programmés ici avec Kirk Douglas ou produits par Kirk Douglas. On va retrouver deux documentaristes et leur productrice avec un petit extrait de ce film, The Last Hillbilly.
This land is the land of old Kentucky. Its name was handed down from old times before Europeans came. In old times in old Kentucky, the wilderness was tamed. Old people, they lived here long before our people came. Our ancestors took this land from the people who were here. And in the taking of this land, our ancestors killed northern souls. In the taking of the land, our ancestors extinguished nations. They were seen as strangers to a dark and bloody continent. Our ancestors carried us here in their dreams. They were abandoned and alone.
Voilà, pendant ce temps-là, se sont installés les deux réalisateurs de The Last Hillbilly, donc Diane Bousgarou et Thomas Jenkoe, c'est bien ça. Et leur distributrice Elisabeth Perlier, bonjour. On aime beaucoup vos choix, notamment sur ce film-là. On a également vu...
Pas seulement.
Vous avez distribué également M, de Yolande Zoberman, qui est un incroyable documentaire. Nico 1988, c'est bien ça. Et des fictions telles que Mustang. Est-ce qu'on peut entendre Elisabeth Perlier? Oui, on entend bien votre voix, allez-y.
Oui, bonjour. Voilà.
Alors, ce film, ce documentaire est assez étonnant. Dans le monde des Appalaches Kentucky de l'Est, aux États-Unis, donc les gens se sentent moins américains qu'appalachiens. Ces habitants de l'Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique de leur région. Vous êtes tous les deux français?
Tout à fait.
Et comment vous avez rencontré ces gens au fin fond de l'Amérique?
Bah en fait, on a fait un voyage aux États-Unis en 2013 et on s'est dit tiens, allons voir un endroit totalement inconnu et on a choisi, on a mis jeté notre dévolu sur le Kentucky et donc on s'est arrêté en chemin au cours de nos vacances et puis dans un restaurant, Brian est venu nous parler, il nous avait entendu parler français et tout de suite il est venu nous parler et en fait ça a été une rencontre déterminante parce que immédiatement il a voulu nous montrer son coin, donc les Appalaches. Nous, on était un petit peu plus à l'ouest et on a découvert avec lui son univers quotidien et puis aussi de plus en plus son univers intérieur avec la force de ses textes poétiques.
C'est un poète, cet homme, Thomas Junkoy.
Alors, on peut pas dire que de prime abord c'est un poète puisque non. son métier premier en fait c'est fermier.
Oui.
Il est fermier, il aide dans la ferme familiale qui est une petite exploitation, mais il s'est avéré que quand on est retourné aux États-Unis en 2015, on a passé beaucoup de temps avec lui donc dans son mobil-home qui se trouve vraiment au milieu des collines, donc sans eau potable, etc. Et on s'est aperçu dans ce mobil-home qu'il y avait beaucoup de carnets avec des textes qu'il avait écrits. Donc il nous a permis de lire ces textes, donc on les a lus. On les a trouvés très beaux, on leur a trouvé une grande beauté littéraire. Et puis aussi, on s'est aperçu en fait que ces textes, dans la manière avec laquelle il formulait les phrases, il utilisait beaucoup l'argot du coin et que ces textes disaient aussi une géographie physique et une géographie sociale.
Et Elisabeth Perlier, à partir de là, vous décidez de distribuer ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet un petit peu radical, ça, un petit peu...
Oui, en fait, je suivais le projet depuis un moment déjà auprès du producteur. J'ai lu le traitement, j'ai vu des images. Au fur et à mesure, on en a beaucoup parlé. Et une fois que j'ai vu le film, c'était énorme, en fait. Un coup de cœur, une sorte d'évidence qui se passe un peu à chaque fois que je choisis un film. J'ai vu sur des films très, très forts qui provoquent beaucoup de choses. Et c'est ce qui s'est passé avec ce film. Et de toute évidence, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Voilà, pour moi, c'est ça qui est très important.
On va écouter ce Brian, ça pourrait presque s'appeler La vie de Brian d'ailleurs ce film.
On y a pensé.
On va l'écouter, pardonnez-nous, on l'a fait doubler en français.
So you want to know about hillbillies.
Donc vous voulez en savoir plus sur les hillbillies.
Well, you do,
enfin,
you don't.
Oui et non.
Because you already know about hillbillies.
Parce que vous savez déjà beaucoup de choses sur les hillbillies.
All the stories that you tell.
Toutes ces histoires qu'on raconte.
All the books that you read,
tous ces livres que vous avez lus,
everybody knows that we're,
tout le monde sait que nous sommes
ignorant,
des ignorants,
we're uneducated,
que nous n'avons aucune éducation, que nous sommes pauvres,
that we're violent, racist,
que nous sommes violents, racistes,
inbred,
consanguins.
It's all true.
Et tout ça est vrai. Tous ces stéréotypes restaient bloqués dans les années 30. Tous les hillbillies sont des mineurs.
Every hillbilly rides a mule, wears overalls,
se déplace à dos de mule, porte des salopettes.
It's all true.
Et tout ça est vrai.
We went from, like, mountaineers,
on est passé des montagnards,
courageous, independent pioneers,
de tous ces courageux pionniers indépendants,
to a bunch of ignorant,
à des gueules noires,
out of work,
des mineurs,
hillbillies,
puis un tas de hillbillies ignorants et au chômage,
three generations,
en trois générations.
Il a une super voix, ce Brian. C'est vrai que donc ils étaient, c'est une décadence en fait. C'était des gens qui travaillaient pour la mine et qui ensuite ont été absents des radars, des subventions, c'est ça un peu l'idée?
Bah, c'est-à-dire que c'est une région où, en gros, depuis l'arrivée des pionniers américains jusqu'au début du XXe siècle, enfin, milieu du XXe siècle, ils ont vécu totalement isolés, il n'y avait pas de route, pas d'eau, etc., enfin, pas d'eau potable tout le temps, etc. Et en fait, l'industrie minière s'est installée et a créé des emplois et tout en détruisant la région. Et à partir du moment où l'industrie minière a périclité, et ben la région est devenue totalement sinistrée. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, c'est la misère. Et donc le seul choix possible, c'est de partir et de renier son passé, d'où l'on vient. Soit c'est de rester et de errer dans les ruines en espérant pouvoir faire quelque chose, peut-être les enfants, peut-être un jour.
Thomas Junkoy.
Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les mines ont permis en fait d'apporter du travail. Ça, c'était le bon côté, mais ça a aussi été une catastrophe écologique, puisque ça détruit en fait notamment les nappes phréatiques. Mmh. Aujourd'hui, en fait, l'eau est pas vraiment potable dans le coin, on peut pas vraiment la boire. Et c'est surtout qu'à partir du moment où les mines sont parties, les ruines sont quand même là, et il y a plus de travail. Donc c'est pour ça aussi que ce que dit Brian à un moment donné, à cela s'est doublé aussi d'une crise politique, puisque il dit we are responsible for Trump, on est responsable.
Oui, la presse les accuse d'être les électeurs basiques de Donald Trump, c'est ça.
Ce qui est en partie vrai, en partie un petit peu binaire, c'est-à-dire que sur place nous on a commencé le film sous c'était l'ère Obama et donc Trump est arrivé et on a eu c'est une réalité assez complexe. Brian, lui, est anarchiste. Il y a des gens dans sa famille qui votent Trump, d'autres qui votent pas, d'autres qui sont démocrates. C'est assez contrasté, en fait, sur place.
C'est un terreau de fiction incroyable aussi, ce lieu. Moi, on imagine que, par exemple, bon, Bruno Dumont est français, mais vous voyez, il y a des, oui. Sur l'ennui, oui. Les enfants passent leur journée à rien faire, en fait.
Bah, c'est sûr que les enfants, nous, on a été passionnés par Brian, mais vraiment sur place, on a adoré être avec les enfants. Effectivement, ils étaient là à zoner, donc du coup, c'était parfait pour nous pour travailler avec eux, leur proposer des scènes. Soit nous, on avait une idée et on leur proposait, soit eux-mêmes, avec leur grande inventivité, ils créaient des scènes qui nous ont vraiment paru très intéressantes à utiliser au montage.
Il n'y a pas eu de défiance de leur part, on a l'impression, d'après ce que vous dites. Or, quand même, c'est une intrusion dans leur quotidien, dans leur vie. Ils savent très bien tout ce qu'ils trimballent comme mauvaise image. Et pourtant, on a l'impression que la grève se fait facilement. Peut-être une illusion.
Non, c'est pas forcément une illusion. Nous, on a eu une grande chance, c'est que, étant français, on était complètement étranger au contexte américain. Je pense que ça aurait été très différent. Et d'ailleurs, on le sait, si on avait été un Yankee, c'est-à-dire un Américain du Nord, un New Yorkais, par exemple, je pense que ça aurait été sans doute la pire des choses possibles. Donc nous, en tant qu'étrangers venant là-bas, c'était déjà suffisamment surprenant pour eux. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous venez faire
Ils nous disaient, mais vous êtes là exprès.
Voilà, c'est ça. Vous êtes là exprès. On disait, bah oui, on est là exprès. On a envie de voir comment vous vivez, ce que vous pensez. Et ça permettait, en fait, effectivement, de rentrer en relation plus facilement avec eux.
Et dernière question, il y a un appel au secours des enfants à la fin. Mm-hmm. Ça, c'est très, très prenant. Je veux dire, c'est très angoissant, presque, à entendre.
Bah, parce qu'effectivement, on a voulu finir sur ce fragile help me, comme ça, qui ouvre sur une obscurité totale, parce que sur place, vraiment, au fur et à mesure que les années passaient, la situation quand même devenait, le nuage noir vraiment se densifiait au-dessus d'eux, et les enfants nécessairement on se demande bien qu'est-ce qu'ils vont faire, quel monde on leur donne en héritage et comment ils vont faire pour s'en dépêtrer, quoi.
C'est passionnant, ça passe à Deauville, ça s'appelle The Last Hillbilly. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci à vous.
Oui, ça sort quand? Quand est-ce qu'on pourra le voir sur les écrans?
En fin d'année, ou tout début d'année prochaine.
Super.
Voilà.
T'as un peu impression encore, mais c'est pas mal.
Merci à vous trois, un grand merci à Alain Fauché et ses équipes. Merci à Tanguy Le Corneau, Georges Thau et Kevin Pelot à Paris. Nous étions en direct depuis l'hôtel Barrière, le Normandie, Deauville, pour cette 46e édition du Festival du cinéma américain qui se poursuit jusqu'au 13 septembre. Générique avec Rebecca Zlotowski qui nous a laissé sa voix ainsi que celle de Louana Bajrami.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destaco.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Rebecca Zlotowski, j'y étais.
Et moi, Louana Bajrami, j'y étais.